L'Hebdo-Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette Hebdo-Région des Pays de la Loire. À quelques jours du deuxième passage de la loi de bioéthique au Sénat, après modification par l'Assemblée le 31 juillet dernier, les opposants à l'extension de la PMA aux couples de femmes se remobilisent. Deux manifestations se préparent à Nantes et Le Mans. Nous ferons le point sur leur argumentaire. Le mouvement des cadres et dirigeants chrétiens, le MCC, tiendra son congrès national à Nantes en mars prochain. Pour préparer ce congrès, il lance passeursd'avenir.fr, un site pour recueillir les réflexions des cadres. Présentation tout à l'heure avec Blandine Barrault, la responsable du MCC en Loire-Atlantique. Rencontre aussi cette semaine avec un jeune ordinant sartois, il s'appelle Gaël Catalano. Dimanche, il sera ordonné diacre en vue du sacerdoce en la cathédrale Saint-Julien du Mans. Nous prendrons aussi des nouvelles des 104 Mayennais qui sont actuellement à Lourdes avec le service de l'hospitalité. Un pèlerinage qui se déroule dans des conditions sanitaires très particulières. Et enfin du cyclisme pour conclure, la commune de Mouchamp en Vendée accueille en cette fin de semaine le championnat de France gendarmerie de cyclisme. La commune de Mouchamp, là où est né et enterré Clémenceau, le fondateur des Brigades du Tigre. Voilà donc pour le sommaire de cette hebdo-région des Pays de la Loire qui vous est présenté par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'hebdo-région, l'actu de la semaine.
Le samedi 10 octobre, le collectif Marchons Enfants, qui rassemble une vingtaine d'associations comme les AFC, Alliance Vita ou la Manif pour tous, appelle à la manifestation à Nantes et Le Mans pour s'opposer à la PMA sans père. Marion Bastic, la mobilisation se prépare chez les opposants donc à cette loi de bioéthique.
Et en effet, Thomas, et la date du 10 octobre est une date importante car c'est quelques jours plus tard que le texte de loi de bioéthique doit repasser au Sénat après avoir été remodifié et voté le 31 juillet dernier en pleine nuit par environ 20% des députés. Un vote à l'Assemblée en catimini, selon Guillaume Bernard, historien du droit et des idées politiques opposant à la loi de bioéthique. Vote durant lequel les députés ont supprimé une phrase importante qu'avaient pourtant introduite les sénateurs lors du premier passage de la loi. Nul n'a le droit à l'enfant.
Oui, bien sûr, parce que c'est toute la signification profonde du texte. En fait, on est supposé, enfin les partisans de ce texte et de toutes les évolutions bioéthiques et des mœurs depuis une quarantaine d'années, défendre l'idée au nom de la liberté individuelle, défendre ses positions au nom, je dirais, de la non-discrimination. Or, en fait, sous prétexte de défendre la liberté, la non-discrimination, il y a toujours une victime, c'est toujours la même, c'est l'enfant à naître, c'est l'être le plus faible, c'est l'être le plus innocent. Et il est bien évident que, avec toutes les évolutions que nous avons depuis une quarantaine d'années, il y a une chosification grandissante de cet être humain, encore une fois, qui est le plus faible et le plus innocent. Et donc, non, un être humain ne peut pas être un instrument, ne peut pas être un bien qui est au service des autres, même pour le bonheur des autres. C'est un être humain singulier, ayant son identité à la fois génétique et culturelle propre, et par conséquent, ne peut pas l'utiliser comme une chose. Et c'est cela qui est au cœur, je dirais, véritablement du débat, même si on essaye de l'embrumer par, soi-disant, la recherche scientifique, la liberté ou la non-discrimination.
Les opposants à l'extension de la PMA aux couples de femmes contestent toujours la rupture de la filiation paternelle, mais surtout, je cite, une chosification de l'enfant.
Parce que à partir du moment où l'on crée les conditions pour que des personnes qui sont, par exemple, prenons le cas de la PMA, dites pour toutes, en fait sans père, où l'on crée les conditions pour que des personnes qui sont stériles naturellement, eh bien, obtiennent, entre guillemets, le droit d'obtenir un enfant, eh bien, ça veut dire que l'enfant n'est pas considéré pour ce qu'il est lui-même et pour lui-même, mais qu'il est considéré comme quelque chose, comme une chose, eh bien, dont on pourrait disposer et dont on aurait le droit d'obtenir, eh bien, la naissance pour son propre compte. Chosification aussi, lorsque dans la recherche scientifique, eh bien, on a troqué petit à petit entre 1994 et aujourd'hui le principe d'interdiction par, en fait, ensuite un principe, je dirais, d'autorisation, mais avec des limites, pour arriver aujourd'hui à une situation où tout ou presque serait permis, y compris le fait que l'embryon puisse être mis à mort pour commettre, pour faire sur lui un certain nombre d'expériences. Donc il y a là, je dirais, incontestablement le fait que l'embryon, le fœtus, l'enfant à naître, ne sont pas considérés pour eux-mêmes, mais comme des matériaux pour la recherche ou des matériaux pour le bonheur des adultes et de ceux qui sont plus forts que lui. L'eugénisme, incontestablement, incontestablement se développe sans arrêt, puisque, par exemple, pour la PMA ouverte aux femmes seules ou aux couples homosexuels, mais disons-le aussi, toute PMA, même pour les couples hétérosexuels, eh bien, entraîne un tri d'embryons, ceux qui vont être implantés et ceux qui ne vont pas l'être. Et donc, évidemment, ce tri d'embryons, il se fait sur des critères d'eugénisme. Donc là, il y a évidemment une idéologie, je dirais, de la santé, de l'hygiène, qui se développe au détriment eh bien, des spécificités de chacun d'entre nous. Et Dieu sait si nous sommes tous singuliers et différents.
Le texte doit donc repasser une deuxième fois devant le Sénat à partir du 13 octobre. S'il n'est pas voté dans les mêmes termes que ceux de l'Assemblée, le gouvernement aura la possibilité soit de continuer la navette parlementaire, soit de convoquer une commission mixte paritaire, c'est-à-dire des représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale qui pourraient se mettre d'accord sur un texte. Et si jamais cela échouait, c'est l'Assemblée nationale qui tranchera définitivement. Il existera alors encore la possibilité pour les opposants au texte de saisir le Conseil constitutionnel.
Merci beaucoup Marion pour cette explication des enjeux de ce texte de loi de bioéthique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, c'est une aide financière qui va soulager bon nombre de Ligériens. Le congé du proche aidant indemnisé vient d'entrer en vigueur. Il est destiné à ceux qui souhaitent arrêter ou réduire leurs activités pour s'occuper d'un proche malade handicapé ou en perte d'autonomie. Cette aide sera comprise entre 43 et 52 euros suivant la situation du travailleur. En Sarthe, il n'y a pas eu de grosse surprise durant les élections sénatoriales du week-end dernier. Les deux candidats de la droite, Jean-Pierre Vogel et Louis-Jean de Nicolaï, ont été réélus, tous les deux des LR. Le troisième siège est remporté par le PS Thierry Cozic. En Maine-et-Loire, dimanche dernier, là aussi, c'était l'élection législative partielle sur la troisième circonscription de Maine-et-Loire, Saumur-Nord. La candidate LR, Anne-Laure Blin, ancienne attachée parlementaire de son prédécesseur, Jean-Charles Taugourdeau, a remporté ce second tour avec plus de 61,1% des voix, ce qui équivaut seulement à 7329 voix. Elle faisait face à l'écologiste Daphné Ravenoux qui a engrangé 38,9% des voix, soit 4658 voix. Donc l'énorme point noir de ce scrutin, c'est bien l'abstention. 84% des électeurs ne se sont pas exprimés, soit 2 points de plus que lors du premier tour.
L'Hebdo-Région, initiative.
Le mouvement des cadres et dirigeants chrétiens, le MCC, tiendra son congrès national à Nantes en mars prochain. Pour préparer ce congrès, il lance passeursdavenir.fr, un site internet pour recueillir les réflexions des cadres sur la façon de mieux appréhender les bouleversements économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés. Il est ouvert à tous les cadres, qu'ils appartiennent ou non à ce mouvement chrétien. Les détails avec Blandine Barrault, la responsable du MCC en Loire-Atlantique, au micro d'Anthony Torzec.
À l'origine de notre démarche, il y a eu un questionnement de tous nos équipiers, les 3500 équipiers en France, sur les problématiques qu'ils avaient envie de voir évoquées dans le congrès. Et c'est en analysant ces retours qu'on a constaté les inquiétudes de mutation de place de l'homme, etc. Et que finalement, si on a voulu s'en inspirer, on ne pouvait pas vraiment faire autrement que d'avoir un sujet relativement large. Et c'est là qu'on a essayé de proposer 4 transitions économiques, écologiques, sociétales et numériques pour vraiment prendre la dimension déjà que tout est lié, qu'on ne peut pas forcément traiter des ruptures indépendamment les unes des autres. C'est comme ça que la démarche est née.
Passeursdavenir.fr, c'est quoi? C'est un site internet. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans?
On a eu l'idée de créer ce site dédié pour, d'une part, mettre à disposition des personnes qui iront dessus, des ressources intellectuelles, spirituelles également. Et à travers ce site, on a voulu aussi engranger une dynamique dans les équipes de réflexion sur des passages. Qu'est-ce que c'est qu'un passage? C'est un chemin qui va nous aider à avancer dans les transitions qu'on doit vivre. Et donc, si vous allez sur le site, vous vous inscrivez et vous avez accès aux passages qui sont proposés par le MCC, en l'occurrence des trinômes qui mettent en ligne progressivement des passages dans chacune des 4 transitions proposées. Et l'objectif, c'est que la personne qui est sur le site contribue soit individuellement, soit collectivement, avec des amis ou avec une équipe, etc., ou avec un mouvement, contribue à débattre, à donner ses idées, à faire avancer la réflexion. Ce qu'on veut, c'est évidemment qu'il y ait le maximum de gens qui participent. Et toute cette synthèse-là sera finalement le point de départ du congrès.
Vous l'avez dit, le site internet ne recueille pas que des réflexions, il propose aussi des outils.
En fait, pour l'instant, c'est prématuré de parler d'outils puisqu'on veut vraiment construire quelque chose ensemble. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on va utiliser ce site-là pour proposer des événements en live avec des témoins. Et les gens qui vont sur le site, s'ils ont envie de nous dire, moi, dans ma ville, il y a là une entreprise qui a vraiment une démarche innovante, humainement intéressante, etc. Eh bien, nous, ce sont des personnes à qui on va proposer des événements en live, donc sous des formats de 3 fois 20 minutes, avec une interview, un journaliste et un chat. Et ce sera ensuite, normalement, une personne qui sera invitée au congrès. Bon, après, on ne pourra pas inviter tout le monde au congrès, tous les témoins qu'on voudra, mais c'est ça qu'on trouve génial à travers la plateforme, c'est cette capacité illimitée de mettre en avant des expériences innovantes, inspirantes, à travers des témoignages.
Un site internet pas uniquement ouvert, vous l'avez dit, aux membres du mouvement des cadres et dirigeants chrétiens. Cela veut dire que quelqu'un qui n'est pas dans une démarche de foi peut également témoigner.
Bien sûr, c'est vraiment tout ce qu'on souhaite. Aujourd'hui, c'est plus du tout dans l'air du temps de rester entre soi pour réfléchir à ces problématiques qui sont des problématiques qui concernent tout le monde. La transition écologique, la transition sociale, la transition numérique, la transition économique, le sens au travail, toutes ces questions-là ne concernent pas que les catholiques et ce serait vraiment dommage de se priver de cette richesse de la vie de tous. Donc non, au contraire, c'est vraiment comme ça qu'on veut construire notre congrès.
Pour partager vos réflexions sur les transitions dans le monde du travail, rendez-vous sur le site passeursdavenir.fr. Le congrès national du mouvement des cadres et dirigeants chrétiens se tiendra les 20 et 21 mars prochains à Nantes. Dans le reste de l'actualité économique, c'est une mauvaise nouvelle pour l'emploi en Sarthe. L'usine Mécachrome de Vibray va fermer ses portes. Le sous-traitant d'Airbus a annoncé un plan social à ses employés. Les 74 personnes vont donc être licenciées dans le département de la Sarthe et le site sera vendu. Et en France, 300 postes sont menacés. À la chapelle Saint-Aubin, le groupe Auchan va supprimer 41 emplois d'ici 2 ans. Les 3/4 au service après-vente, le reste dans l'hypermarché. Cela s'inscrit dans un plan d'économie nationale annoncé par le géant de l'alimentaire.
L'Hebdo Région, rencontre avec.
Et rencontre cette semaine avec un jeune ordinant sartois, Aubéry Métro, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous avez rencontré Gaël Catalano. Dimanche, il sera ordonné diacre en vue du sacerdoce en la cathédrale Saint-Julien du Mans.
Oui, Gaël est un trentenaire qui aime les jeux vidéo et le football. Le jeune homme châtain et ses lunettes rondes respire la joie. Cette envie de donner sa vie à l'église, il la ressent depuis qu'il est tout petit, mais il a quand même eu du mal à l'identifier.
Quand j'étais lycéen, je faisais... Parmi un déménagement, je fouillais un peu pour faire le tri dans mes papiers et je suis retombé sur un petit livret de 6e, à l'entrée de la 6e, où on nous était posé des questions. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Et donc je redécouvre avec surprise mes réponses de l'époque où je disais je voudrais être professeur ou prêtre en 6e, voilà. Mais j'avais plus souvenir de ses réponses. Et finalement, mon parcours a fait que j'étais professeur et peut-être un jour prêtre. C'est bien parti en tout cas.
Après avoir lu cette lettre, Gaël se dirige vers des études d'instituteur. Il exercera d'ailleurs quelque temps ce métier à Montfort-le-Génois, une ville à l'est de la Sarthe.
Mais alors Aubéry, quand est-ce que Gaël prend la décision de rentrer au séminaire ?
Eh bien le jour où il obtient son diplôme de professeur des écoles. Il voit ses camarades sauter de joie partout, mais lui ressent un grand vide. Après quelques heures de jardinage et une retraite spirituelle, Gaël prend donc la décision d'aller voir l'évêque du Vent, Monseigneur Le Sceau, et d'entrer au séminaire de Nantes. Et parmi les engagements importants qu'il prendra dimanche, eh bien il y a celui du célibat.
Mes amis ont commencé à se marier et à avoir leurs premiers enfants, et notamment une très bonne amie qui a eu son premier enfant. Et ça a été une année aussi pour me positionner aussi dans ces choix de célibat, de choix de renoncer à la paternité finalement. Et finalement, de voir des enfants autour dans mes amitiés, ça m'a fait comprendre que ah oui, ça serait très beau, je ferais un très beau papa. Mais que le Seigneur m'appelait à être encore plus heureux dans une vie de célibat, mais pas sans enfants, parce que tous ces enfants d'amis, sont pour moi très chers à mon cœur. Voilà.
Cette célébration marquera donc l'entrée dans la vie consacrée de Gaël, mais aussi le début de son ministère. Une dernière étape de formation avant, si tout va bien, de devenir prêtre l'été prochain.
Pour moi, ce n'est pas un en soi l'ordination, c'est plutôt le début d'un nouveau chapitre. En même temps, ça va tout changer. Et en même temps, rien ne va changer.
C'est un peu comme le oui dans un mariage, ça change tout et en même temps, ça ne change rien.
Voilà. Bah, Oui, je pense, on peut faire le parallèle exact. Moi, je me vois plus prêtre à la campagne. Mais je serai au service de la mission que qu'on me donnera. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans mon cheminement de foi ecclésiale, c'était cette vie familiale de paroisse du rural, avec ces chants du terroir, voilà, qui sont peut-être parfois désuets, mais qui nous rassemblent. Ces pèlerinages à la telle chapelle de la Vierge, dans tel petit patelin, avec le pique-nique tiré du sac. Voilà, ça, c'est des souvenirs d'enfance que j'ai envie de poursuivre, parce que c'est des beaux moments.
Gaël Catalano sera ordonné diacre en vue du sacerdoce ce dimanche, donc, à la cathédrale Saint-Julien, avec un autre trentenaire, Antoine Clément. La messe débutera à 15h30.
Et si vous le souhaitez, elle sera à suivre en direct sur l'antenne sartoise de RCF. Merci beaucoup au Berry Métro. Je vous dis à la semaine prochaine.
L'Hebdo-Région, la pause spirituelle.
104 Mayennais sont en ce moment même en pèlerinage à Lourdes avec l'hospitalité. Sachant que beaucoup de pèlerinages ont été annulés, sine die, c'est presque un séjour exceptionnel que nous avons envie de partager avec vous. Isabelle Rupin a pu les joindre jeudi soir à leur arrivée à la Cité Mariale. Bonjour Isabelle.
Bonjour Thomas. Oui, c'est en effet un quasi-événement et en tout cas un grand moment que ce pèlerinage qui emmène 24 malades et 80 hospitaliers mayennais jusqu'à Lourdes. Gaël Batty est membre de l'hospitalité et nous confirme que toutes les personnes ont été testées à la Covid-19 avant le grand départ.
Ça y est, nous venons de passer la pancarte de Lourdes. Je pense que nous serons le seul pèlerinage avec des pèlerins malades. Tous les hospitaliers et tous les malades que nous emmenions. Tout le monde a été négatif et tout le monde a joué le jeu au sein de l'hospitalité et des patients que nous emmenions.
Et sur place, tout est prévu également pour une sécurité maximale.
Une chambre de 6 lits, nous mettons 3 personnes. Les gens au réfectoire, ils seront seulement 4 sur des tables où d'habitude on met 8 ou 10. Chaque personne aura sa petite voiture bleue avec qui sera étiquetée, avec une bâche, une couverture pour les 4 jours. Et puis bien évidemment, gel hydroalcoolique, température tous les matins, gants et masques bien sûr, puisque nous avons emmené 1000 masques à raison de 3 masques par jour, aussi bien pour les hospitaliers que pour les personnes malades.
Nous voici rassurés, mais Isabelle, nous avons bien envie, au-delà des conditions spéciales du Covid, de savoir ce que vivent ces pèlerins mayennais sur place.
Alors là, je vais laisser Gaël Batty nous expliquer les grandes lignes de ces 4 jours, durant lesquels, d'ailleurs, notre évêque, Mgr Thierry Scherrer, l'évêque de la Mayenne, sera présent.
Nous avons un programme établi en partenariat avec le directeur des pèlerinages. Donc vendredi, il y a la messe d'ouverture à Sainte-Bernadette. À 10h30. À 15h30, nous avons le chapelet à la grotte. Et à 16h30, nous avons le chemin de croix des malades. Le samedi, nous avons une messe à grotte qui est concélébrée par Monseigneur. L'après-midi, il y aura le chapelet à la grotte. Après, nous aurons la découverte du sanctuaire. Et à 21h, nous aurons le chapelet au flambeau, la procession mariale. Le dimanche, nous avons notre messe à Sainte-Bernadette, messe diocésaine, avec des engagés au niveau de l'hospitalité. L'engagement étant des personnes qui ont passé 3 ou 4 pèlerinages et qui décident de s'engager en hospitalité afin de servir à mesure de leurs possibilités. Après-midi, nous avons une conférence donc, faite par Monseigneur à Sainte-Bernadette et à 17h, l'adoration eucharistique. Et le lundi, la messe d'envoi le matin et le sacrement des malades. Et l'après-midi, le geste de l'eau. Parce qu'il faut savoir que les piscines sont fermées, donc il n'y a plus de bain. Mais en revanche, nous pouvons accéder aux piscines et il y a geste de l'eau. Voilà, on explique les piscines, etc. Et là, vous entendez les applaudissements parce que notre PMR, qui est un bus pour les personnes à mobilité réduite, vient d'arriver à l'accueil. Donc, nous sommes arrivés à bon port, évidemment.
Voilà, donc comme vous le voyez, Thomas, c'est un programme assez conforme à ce qui se vit habituellement à Lourdes, mais avec là une saveur toute particulière du fait de l'annulation de la plupart des pèlerinages vers la Cité Mariale. Cette saveur particulière, les pèlerins en ont bien conscience et ils pensent bien évidemment à tous ceux qui restent un petit peu sur le carreau.
On pense très fort à eux, on a eu beaucoup de messages de sympathie et d'affection durant le voyage d'ailleurs. Et vous serez bien évidemment tous dans nos prières.
Et s'ils nous portent dans leurs prières, ils seront aussi certainement dans celles de beaucoup de nos auditeurs. Cela donnera peut-être des envies à d'autres organisateurs de pèlerinage. Quoi qu'il en soit, nous leur souhaitons un très bon séjour. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir partagé cela avec nous. Allez, on continue toujours en Mayenne. Le mémorial des déportés situé dans la ville de Mayenne vient de recevoir un trésor inestimable, le portefeuille d'un résistant lavallois déporté en Allemagne en 1944, Pierre Coste. 75 ans après, il est exposé dans le musée avec les photos qu'il contenait. En outre, le mémorial expose en ce mois d'octobre 80 destins brisés, destins de familles ou de personnes souvent exilées en Mayenne, arrêtées, persécutées, emmenées en camp et pour beaucoup décédées dans les camps. C'est le fruit d'un travail quasiment de fourmi pour que la mémoire reste vivante.
L'Hebdo-Région, si on sortait.
Et l'on retrouve Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
La commune de Mouchamp accueille en cette fin de semaine le championnat de France de gendarmerie de cyclisme. En ouverture de l'événement, les organisateurs ont rendu jeudi matin un hommage à Clémenceau avec un dépôt de gerbe sur sa tombe en présence des élus locaux. Et à partir de ce vendredi, c'est place à la compétition, Fanny. Hein ?
Oui, les catégories élite et vétérans 1 ont couru ce vendredi après-midi. Ce sera au tour des vétérans 4 et des féminines ce samedi matin et des vétérans 2 et 3 dans l'après-midi. 200 cyclistes gendarmes, dont 17 femmes venues de toute la France, ont fait le déplacement. Pour le général Maurice Lallemand, président de l'association Cyclisme Gendarmerie qui organise ce championnat de France, il était important de le maintenir malgré la crise sanitaire.
C'était presque essentiel parce qu'il fallait que la vie continue, y compris pour les gendarmes. Et les gendarmes y tiennent beaucoup et ils ont répondu à notre appel et en nombre, puisque nous serons plus de 200 concurrents cette année, alors que les autres années, nous étions un peu moins. Donc ils ont voulu nous soutenir à travers leur inscription. En gendarmerie, nos personnels sont très sportifs en général. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une activité qui est très dynamique et puis très usante, si on peut dire. Donc ils ont besoin de faire du sport, pouvoir se maintenir en forme, quel que soit leur âge. Et il y a un certain nombre d'entre eux qui pratiquent le cyclisme parce que c'est un sport individuel et que souvent, ils ne peuvent pratiquer que des sports individuels après le service.
Pour cette 21e édition, un circuit de 11 km a été tracé par les organisateurs. Il passe tout près de la tombe de Clémenceau au Colombier. Les concurrents feront entre 6 et 11 tours selon leur catégorie.
Et y a-t-il des favoris, Fanny ?
Eh bien, pas vraiment, Thomas. Après un parcours plutôt réservé aux grimpeurs l'an dernier à Argelès-Gazost, cette année, la course devrait être plus ouverte. C'est en tout cas le sentiment de Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France dans les années 70 et l'un des initiateurs du championnat de France gendarmerie de cyclisme.
Je pense que ce sera plus ouvert parce que, évidemment, lorsqu'on fait un parcours très sélectif, finalement, au bout de trois tours, on a pratiquement le classement. Que là, ça laisse beaucoup plus de chance à beaucoup plus de coureurs. Alors, bon, peut-être que les grimpeurs, punchers vont craindre un petit peu parce qu'ils pensent que c'est plus pour des sprinters ou des rouleurs. Mais bon, il en faut un petit peu pour tout le monde aussi. On ne peut pas faire que des circuits difficiles où on évince les coureurs qui n'ont peut-être pas eu le temps de s'entraîner pour cette année à cause de la Covid. Donc ça permet à beaucoup plus de coureurs de croire en leur chance.
Et dans un département comme le nôtre, le vent, ça peut jouer aussi ?
Oui, bien sûr. Ah oui, le vent, ça, oui, en Vendée, ça, le vent, ça joue une. J'en ai quelques expériences lointaines dans le Tour de France, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des sautes de vent comme ça. Et on a une partie du parcours qui est protégée, mais une autre large partie aussi qui est exposée au vent. Et à ce moment-là, oui, le vent peut obliger les coureurs à faire des éventails. Ils ne sont peut-être pas tous bien habitués à ce genre d'exercice, alors ça peut aussi faire une sélection.
C'est la première fois que ce championnat de France se dispute en Vendée. Le maire de Mouchamp, Patrick Mandin, s'en réjouit.
Pour nous, c'est une fierté, un honneur de recevoir ce championnat de France de gendarmerie, ce championnat cycliste, à la fois parce que nous sommes heureux de pouvoir soutenir les gendarmes, qui sont des alliés indispensables pour les élus communaux et qui assurent à la fois notre tranquillité, notre sécurité dans nos communes. Et puis aussi, c'est important de pouvoir maintenir des événements sportifs, des événements festifs, de convivialité, qui, malgré la crise sanitaire, permettent à chacun de se rassembler et de faire que la vie continue.
Sur les 200 coureurs qui participent à ce championnat de France gendarmerie de cyclisme, 28 viennent de la région Pays de la Loire et 5 sont vendéens. Parmi eux, le colonel Véronique Sandal, commandante du groupement de gendarmerie de la Vendée, qui s'alignera au départ pour la première fois.
Fanny Brevet de RCF Vendée, merci beaucoup Fanny. Et puis on termine cette hebdo région avec cette mauvaise nouvelle pour les fans de sport mécanique. La 36e édition des 24 heures camion qui devait avoir lieu les 7 et 8 novembre au Mans est annulée à cause de la crise sanitaire. Prochain rendez-vous fixé à septembre 2021. Voilà, c'est la fin de cette hebdo-région des Pays de la Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très vite.